Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, les grandes entrevues de la semaine.
On parle beaucoup avec raison de ces nombreux féminicides depuis le début de l'année. Le nombre est élevé. Ce matin, je vous présente Christine Giroux. Elle a été victime de violences conjugales pendant de nombreuses années. Et avec les séquelles qu'on peut imaginer, encore aujourd'hui, elle craint parce que son ex-conjoint, vous allez comprendre la suite des choses, est allé en prison et doit revenir devant la justice le 8 octobre prochain. Un et deux, elle doit témoigner dans ce procès et vous allez comprendre pourquoi. Elle a accepté d'être avec nous ce matin. Madame Giroux, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
On va prendre ça du début. Vous vous êtes mariée très jeune. Vous aviez quoi, 17 ans?
J'avais 17 ans.
C'est arrivé comment, ce mariage-là?
Très vite. Moi, je l'ai connu au mois de juin. On s'est mariés au mois de novembre. Je ne le connaissais pas réellement quand je me suis mariée.
OK. Il était évidemment gentil avec vous. Il était agréable.
Il était très gentil. Il venait juste d'arriver au Canada. C'était parfait au début.
C'est un jeune homme qui arrivait du Honduras.
Du Honduras.
OK. Comment ça se passe les premières semaines, les premiers mois de la vie de couple?
Les premiers jours, les premières semaines, tout a été merveilleux. La première agression physique a eu lieu le jour du mariage.
Le jour du mariage?
Oui, le jour du mariage.
Qu'est-ce qui est arrivé?
C'est un invité imprévu qui est arrivé à la maison avec une autre personne qui était invitée. Puis... ça l'a fait paniquer, ça l'a mis hors de lui. C'est sur moi qu'il s'est vengé, pendant que les invités étaient là, dans la chambre.
S'est vengé comment?
Des claques et des coups de poing au visage.
C'était la première fois qu'il levait la main sur vous?
Première fois. Moi, à ce moment-là, j'ai trouvé des excuses. Je me disais qu'il était stressé pour le mariage. Je me disais que l'alcool, cette journée-là, l'avait peut-être stressé aussi. Ou je lui donnais toujours des raisons. Donc, c'est comme ça que ça a commencé.
Est-ce que le lendemain, il s'est excusé, comme c'est souvent le cas?
Bien sûr, à chaque fois. Il s'excuse, des fleurs, je le ferai plus. Je vais prendre des mesures pour plus recommencer à être violent. Tu le crois? C'est des manipulateurs.
Pourquoi vous l'avez cru?
Moi, j'ai grandi, j'avais pas de père. Donc, je voulais que mes enfants aient un père. Donc, je tenais vraiment à ce que ma relation fonctionne pour mes enfants.
Vous avez eu combien d'enfants?
On a eu 3 enfants. J'en ai un de décédé.
Et comme père, comment il était avec les enfants?
Quand il était à jeun, il était un très, très, très bon père. Sport, il allait au sport avec les enfants. Il était très impliqué, mais il n'était pas à jeun très souvent.
Donc, ça veut dire qu'il était colérique. Il y avait des montées de violence.
Tout le temps. Tous les jours.
Tous les jours?
Oui.
Ce que je comprends aussi, c'est qu'il y a un parcours criminel aussi en parallèle qui s'est développé.
Ouais. Avec moi, j'ai 17 accusations portées contre lui. Il a été accusé et coupable les 17 fois, mais il y en a plusieurs autres là, pour différentes raisons.
Il a fréquenté un gang criminel.
Il est dans une gang de rue, oui, dans une gang criminelle.
Puis il y a même des armes qui cachaient chez vous.
Il y a des armes. J'ai déjà eu une saisie, avec un papier de la police qui sont venus fouiller dans le garage, la maison. Ils ont trouvé des armes. C'est quelqu'un de connu par la police qui a tout le temps des armes avec lui.
Le groupe M13.
Oui.
Vous saviez qu'il faisait partie de ce groupe-là, qu'il avait des activités criminelles ou?
Je l'ai su plus tard. Je m'en doutais quand il y avait les armes à la maison puis tout ça, mais c'est plus tard là, que des petites réunions, là, c'était à la maison, puis c'est là que je m'en suis rendu compte.
Je regardais, là, il y a eu, comme vous dites, là, un paquet d'événements de violence à votre endroit. Il est reconnu coupable, il est envoyé en prison. Vous dites qu'il y en a eu combien au total?
17. 17 accusations.
De voies de fait?
Voies de fait, menaces.
Agression sexuelle?
Agression sexuelle, oui.
À quel moment vous avez dit, là, c'est assez?
Le moment où j'ai dit c'est assez, il y en a plusieurs, il y a plusieurs événements déclencheurs. Je pourrais te parler de la fois où il a penché la tête de mon fils sur la table de la cuisine pour le forcer à prendre de la cocaïne et le viol. Ça m'a détruit, donc j'ai fait des tentatives de suicide. Donc j'étais rendue à ce point-là, je devais me sauver de cette relation-là pour sauver ma vie. J'avais plus le choix.
Quand vous lui avez annoncé « c'est terminé », ça a été quoi la réaction?
J'ai été battue cette journée-là. J'ai été battue. Et ensuite, quand il a reçu les papiers de divorce par le huissier, il a mis un gun sur la tête du huissier. Il a été arrêté encore.
Ce qu'on a vérifié, là, sa liste d'antécédents criminels...
Ça finit plus.
C'est interminable.
Oui.
Il y a un événement qui, je pense qu'il faut raconter aux auditeurs. Il s'en prenait à vous, mais pas très souvent, je dirais, aux enfants.
Aux enfants, c'est arrivé une fois. C'est en 2010. Dans la même soirée, il est rentré. Il y avait une interdiction de contact, parce qu'il y a toujours des interdictions de contact.
Qui ne respectent jamais.
Cette soirée-là, il y a 10 ans, il est rentré par infraction 3 fois. Dans la même soirée. 3 fois, j'ai appelé les policiers. Le temps que les policiers se rendent à la maison, évidemment, ils étaient disparus. Ils ont arrangé ma porte là, jusqu'au lendemain pour qu'elle puisse tenir. La 4e fois qu'il est venu à la maison, il est venu avec un bat de baseball. Il est rentré par infraction. Il m'a frappé, il m'a lancé dans le mur. Il m'a un peu défiguré le visage. Il est rentré dans la chambre des enfants avec un bat de baseball dans l'intention... de les battre parce que pour lui...
Les enfants ont quel âge à ce moment-là?
Les enfants, ils avaient 10 ans,
okay.
Entre 10 et le plus vieux, 12. Donc, il voulait pas que les enfants restent avec moi. Pour lui, c'était... Bon, les enfants vont être une source de conflit pendant le divorce, donc il voulait que les enfants disparaissent. Donc...
Qu'est-ce que vous avez fait?
Je l'ai poignardé, M. Arcan. Pour qu'il lâche mes enfants, je l'ai provoqué pour qu'il me fasse face. Et il m'a poussé contre le comptoir de la cuisine pour me bloquer. J'ai tendu une main derrière moi pour prendre le premier objet que j'étais pour toucher. Et malheureusement ou heureusement pour moi, c'était un couteau. Donc, je l'ai poignardé, je lui ai perforé un poumon. Il a été opéré, sa vie elle a été en danger, tout ça.
Vous avez été arrêté?
J'ai été arrêté cette soirée-là. Puis j'ai été relâché. J'ai été déclaré non coupable pour légitime défense, pour avoir protégé mes enfants.
Vous venez de décrire ce cycle.
Toujours. C'est une répétition. C'est une roue qui tourne. Dès qu'il sort de prison, il me retrouve, peu importe où je vais, peu importe si je déménage, peu importe l'endroit. Ça finit jamais. C'est toujours à recommencer.
Quels sont les effets, je ne parle pas là des blessures physiques, là, parce que vous venez de décrire ça, mais les effets sur vous, sur la façon dont vous êtes capable ou pas d'interagir avec les autres, être toujours dans la crainte qui apparaît dans le cadre de porte, c'est quoi l'impact de ce cycle de violence sur vous?
Bien, moi, je souffre d'un post-choc traumatisme, d'une dépression. Je ne vais pas dehors. Aujourd'hui, c'est une grande
exception,
journée pour moi. C'est vraiment exceptionnel. Je dors pas, je suis médicamentée, je fais des crises de panique, c'est comme une crise cardiaque, je suis souvent à l'hôpital, c'est ça, je dors pas, je tremble, j'ai peur des gens, si je suis dehors, j'ai l'impression que l'environnement, c'est trop vaste pour moi de surveiller chaque mouvement, chaque personne. Je sors toujours. Si j'ai besoin de sortir comme aujourd'hui, je sors accompagnée avec mon amie Isabelle. Ça a changé ma vie complètement. Comme j'ai dit tantôt, 3 tentatives de suicide. Faut que je me cache. C'est terrible. C'est l'enfer.
Parce qu'à chaque fois, je prends l'exemple de la pandémie, on l'a remis en liberté pour des raisons humanitaires.
Là. Exactement.
À chaque fois qu'il y a une opportunité, une chance de vous harceler à nouveau, il le fait.
Monsieur Arcan, à chaque fois qu'il sort de détention, le lendemain, il s'en prend à moi.
Le 8 octobre, il revient devant la justice.
Oui, on passe à la cour le 8 octobre. Je dois aller témoigner. Ça, c'est pour les menaces qu'il me fait en sortant de prison au mois de mars. Menaces de mort. Il m'avait trouvé encore. Il s'est posé avec mon adresse en arrière-plan de sa photo, avec des couteaux dans la bouche et tout ça.
Là, est-ce qu'il est en prison?
Il est en prison depuis le 23 mars.
OK. Puis donc, comparution le 8 octobre. Oui. Puis vous allez témoigner.
Oui.
Comment vous sentez à l'idée d'aller témoigner?
Ça me tentait pas tellement. C'est encore la répétition. C'est toujours un procédé à recommencer. J'étais très nerveuse. J'ai un chien d'accompagnement. Donc, ça me soulage, ça me déstresse. Au début, on m'a demandé si je voulais avoir un panneau amovible pour me cacher de lui. Je suis rendue au point où non, je vais l'affronter. Je vais donner ma voix à toutes les femmes qui sont décédées de féminicide. J'ai décidé de mettre mes pantalons, de montrer mon visage et de parler.
Il y a une question que... Enfin, je connais la réponse, mais je vous la pose, là. Pourquoi, après un premier coup de poing, le jour du mariage, vous avez gardé cette relation-là? Vous avez répondu un peu tantôt, là, mais je pense que ça vaut la peine d'insister.
Je crois que c'est vraiment la manipulation. Moi, il me menaçait toujours dans... Mes enfants, ils ont la citoyenneté hondurienne et canadienne. Donc, il savait qu'en disant ça, qu'il était pour emmener les enfants dans son pays, que j'étais pour rester. Donc, il m'avait toujours avec ça. C'était carrément de la manipulation. Ou il était pour se suicider, c'était pour être ma faute. C'est toujours comme ça.
Est-ce que financièrement, vous étiez indépendante assez pour le quitter aussi?
Non.
L'argent était un enjeu?
L'argent était un enjeu. Les Espagnols, c'est comme un petit peu comme les Italiens. Ils aiment ça quand la femme reste à la maison, le monsieur va travailler, tout ça. Donc, moi, j'étais à la maison. En fait, quand je sortais, ils me suivaient partout. Là. J'avais un rendez-vous à la clinique. Ils prenaient off là, pour venir avec moi. Là. C'était vraiment... C'est de la manipulation totale.
OK. Vous avez écrit un livre.
J'ai écrit un livre sur
qui va être disponible à partir de demain, je pense.
Demain.
Bon. C'est quoi le titre du livre, là, pour les gens?
C'est Ma voix retrouvée. Il va être disponible dans plusieurs librairies et Amazon.
OK. Pourquoi vous écrivez un livre? Pourquoi vous en parlez publiquement? Parce que vous êtes encore là-dedans. Là. Je vous sens très, d'abord, nerveuse, fébrile. Vous êtes ici, c'est pas habituel. Pourquoi écrire et pourquoi parler publiquement à visage découvert comme ça?
En fait, j'ai commencé à écrire mon livre. Ça venait une idée de ma thérapeute qui me disait « T'as beaucoup de choses dans ta tête. Écris-les, déchire-les, brûle-les. Ça va te vider de tes pensées. » À la fin de mon écriture, j'avais vraiment un document assez lourd. Donc, j'ai décidé d'en faire un livre pour aider les autres. Moi, j'ai toujours pensé que j'étais pour être la prochaine victime de féminicide. Monsieur Arcand, mon testament, il était affiché sur mon frigo. J'étais prête. Donc, pour toutes les femmes qui ont perdu la vie, ma bataille va être la violence conjugale.
Quand on décide de quitter, qu'est-ce qui est le plus dur, le plus difficile, mis à part le fait qu'il est dans le décor et qu'il est menaçant, là, qu'est-ce que vous avez trouvé le plus ardu?
Moi, ça a été de recommencer ma vie. Je suis déménagée chez mon ami le temps de me trouver un travail parce qu'avant d'avoir un appartement, évidemment, il faut les moyens, il faut un travail. Mmh. Il avait fermé mon compte de banque, il m'avait fermé toutes les portes. Là. J'avais plus rien. Je suis partie avec un paire de jeans, un chandail de chez lui. Là. J'ai tout fallu que je me rajette au complet. Ça a été de refaire ma vie, la confiance, j'en avais plus. Ça a été de rebâtir la confiance, ma confiance. Moi, il m'avait complètement détruite. Ça a été de reprendre à vivre, de faire confiance à quelqu'un.
Puis les enfants dans tout ça, comment c'est dur pour les enfants? Ils ont été témoins des gestes violents de leur père.
Oui, bien, premièrement, quand je l'ai poignardé, ça a été malheureusement devant mes enfants. Ils ont été témoins de violence. Quand il m'a violée, je suis revenue à la maison complètement nue. J'ai sauté dans ma voiture. C'est mon fils. Quand j'ai ouvert la porte de chez moi, c'est mon fils qui m'a vue nue, les jambes en sang. Mon fils est traumatisé. Le plus jeune, j'ai pas une très bonne relation avec lui parce que pour lui, son père est malade. Son père a besoin de soins psychologiques, a besoin de soins pour sa dépendance à la cocaïne. Il me dit que c'est pas au Honduras qu'il va avoir de l'aide, donc que c'était préférable pour lui de rester au Canada. Donc ça, entre moi et lui, c'est un grand conflit.
Vous retournez en cours, je le disais.
Le 8 octobre.
Ouais. Selon vous, qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi la suite des choses? Il va retourner en prison pour un bout de temps?
Mon avocate puis la procureure demandent 2 à 3 ans d'emprisonnement encore. Je sais qu'immigration est dans le dossier. Monsieur devait être déporté cet été, le 16 juin. À cause de la pandémie, ça a été suspendu. Là, j'ai su qu'il a transféré sa demande d'immigration en réfugié. Donc, il ne peut plus être déporté. Donc, moi, ma bataille, c'est ça présentement avec l'immigration.
Wow!
Oui.
C'est beaucoup.
C'est énorme, c'est beaucoup. C'est épuisant, c'est stressant, c'est sans fin. C'est une roue qui tourne, qui finit plus.
À travers tout ça, êtes-vous capable de voir une petite lueur, de refaire votre vie, je ne sais pas, de refaire confiance à quelqu'un? Puis on comprend pourquoi vous êtes méfiante, avec raison, là, mais est-ce que vous êtes capable de vous dire qu'il y a quand même un espoir dans ma vie?
Oui, je commence à voir la lumière au bout du tunnel. Ça a été longtemps, ça a pris longtemps pour moi avant d'aller chercher de l'aide. J'ai été chercher de l'aide cette année.
Mm-hmm.
Je suis une thérapie avec un psychologue, je fais de la zoothérapie, je fais des cours d'autodéfense. Il y a plusieurs choses qui ont été mises en place qui m'ouvrent des portes pour me faire sentir un peu mieux.
Merci beaucoup d'être venu. Je sais que on dit ça aux invités, mais vous, c'était un effort supplémentaire.
Oui,
vous rappelez le titre de votre livre.
Ma voix retrouvée va être disponible sur Amazon.
De Christine Giroux. Merci.
Merci, Monsieur Arcan.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcan. Les grandes entrevues de la semaine.
Encore et encore des coups de feu. Cette fois, c'est à Laval. Deux hommes qui ont été blessés par balle. Un homme a été arrêté. Bénédicte Lebel est dans le quartier Chaumédée où ça s'est passé. Qu'est-ce que tu as comme information?
Écoute, j'ai pu en apprendre un petit peu plus dans les dernières minutes, Paul, parce que j'ai pu parler avec le propriétaire de la résidence où ça s'est passé, un père qui est inquiet, qui essaie de comprendre ce qui s'est produit, qui a vraiment eu peur. C'est en plein quartier résidentiel, là, sur la rue Léandre-Descôtes. Et ce que je comprends, c'est que ça commence vers 22h45. Trois jeunes qui sont réunis, semble-t-il, qui sont souvent aux alentours du garage, traînent souvent dans le garage de la résidence. Et les voisins m'ont parlé de 6-7 coups de feu. Donc, deux hommes de 19 et 20 ans qui ont été blessés par balle. Ils ont été retrouvés devant la résidence. On ne craint pas pour leur vie à ce moment-ci. Et le garage de la résidence, bien, le père a une compagnie d'électronique et il y a plusieurs éléments à l'intérieur. Donc, probablement qu'avec un projectile, il y a un incendie qui s'est déclaré là, dans le garage. Le fils du propriétaire, lui, a pas été blessé, mais ses amis, oui. Et c'est ce que l'homme m'a dit, c'est que c'est pas la première fois que ça arrive, que la maison est visée. Ça s'était aussi produit en 2020. On peut écouter l'homme.
Ça se peut, c'est lié à mon fils. Ça se peut, c'est les mêmes personnes qui l'ont fait la dernière fois. La personne qui est venue était là pour les tuer. Elle était là pour un assassinat. Elle n'était pas pour les faire peur ou les faire blesser.
Alors, il essaie de comprendre. Ce qu'on dit, c'est que les victimes étaient connues des policiers. Et ce que je comprends, moi, c'est que le reste de la famille est à l'extérieur du pays. C'est une famille dans cette maison-là qui a plusieurs enfants. Et le père me dit être vraiment démuni devant ce qui se passe, comprend que c'est peut-être lié à son fils, mais n'ose pas s'imaginer ce qui aurait pu se produire. On peut l'entendre à nouveau.
Je peux pas vous dire comment je sens. Je suis perdu, je suis sur le choc. C'est un cauchemar.
Alors, comment agir quand ça fait deux fois que ça arrive? C'est quoi les solutions? C'est ce qu'il me disait. Donc, il y a eu arrestation à Montréal, un homme de 19 ans autour de minuit. C'est quelqu'un qui vient de Montréal. C'est des informations qui ont été reçues, là, des témoins qui avaient vu notamment la plaque d'immatriculation. Lui a été arrêté à bord de son véhicule. La personne, le suspect, n'est pas connu des services policiers à ce moment-ci, présentement en interrogatoire. Devrait comparaître ce matin, possession d'armes à feu, d'avoir déchargé une arme à feu, de complot également. Et on en parlait un peu plus tôt à la c'est rendu qu'il y a beaucoup, beaucoup d'événements. On parle de plus d'une trentaine d'événements depuis le début de l'année liés aux armes à feu. Dans le voisinage ici, les gens sont inquiets. Il y en a qui ont dû quitter là, parce qu'il y a eu l'incendie, il y a eu les coups de feu, quitter au beau milieu de la nuit, pieds nus avec les enfants pour s'en aller plus loin. C'est la deuxième fois que ça arrive, c'est loin d'être assuré.
Je comprends. Merci beaucoup, Bénédicte. Avec nous maintenant le directeur du service de police de la ville de Montréal, Sylvain Caron. Monsieur Caron, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
Un cas, c'est pas sur votre territoire, le suspect est arrêté sur votre territoire, mais quand même, il y en a eu des comme ça aussi à Montréal. Qu'est-ce que vous dites comme directeur de police à un père là, qui sait plus quoi faire?
On comprend les familles et les citoyens actuellement d'être préoccupés par les événements qui se produisent, puis on dit, écoutez, donnez-nous la possibilité de travailler, donner toutes les informations que vous pouvez me donner en rapport avec ce qui se passe. Je comprends qu'est-ce qui est arrivé à Laval la nuit passée. On a évidemment ce genre d'événements qui se produisent sur notre territoire. Alors, on a besoin de la collaboration de la population. La moindre petite information est importante pour nous aider à faire avancer les enquêtes.
Est-ce qu'à votre connaissance, là, les informations entrent? Est-ce que vous en savez plus ce matin qu'il y a deux semaines, il y a deux mois?
Oui, il y a beaucoup d'informations. Justement, je parlais avec les responsables d'Infocrime la semaine dernière, puis on me dit qu'eux ont une augmentation importante de citoyens qui rapportent des informations qui sont transmises à notre organisation. Alors oui, la collaboration du public est présente, puis il faut continuer dans ce sens-là. La moindre petite information est importante.
Pourriez-vous me définir qui sont les gens qui se tirent dessus dans le sens suivant, là? C'est une guerre de gangs, de territoires, c'est des individus où la moindre frustration les fait déraper. On a affaire à quoi?
On a affaire à des gens impulsifs, émotifs, qui, pour des raisons aussi insignifiantes qu'un conflit, une histoire de fille, toutes les raisons aujourd'hui sont bonnes pour aller tirer. On a vu récemment dans les médias qu'on parlait de faire des scarés, là. Alors, vraiment, c'est la banalisation des armes actuellement qu'on vit, puis on tire pour rien dans des endroits résidentiel. Alors, c'est très préoccupant, on le sait. Puis, on travaille sur 5 axes précisément actuellement pour enrayer cette situation-là. La présence policière active dans les différents secteurs chauds qu'on identifie à chaque jour, on dirige du personnel additionnel. On a des enquêtes actives. On a le renseignement qui est mis à profit. On tente de communiquer le mieux possible à la population. Puis, toute la question de la prévention avec les organismes puis auprès de la population, nos agents sociocom, il y a une grande mobilisation qui est faite dans l'organisation sur ces axes-là actuellement.
OK. On parle des armes, là. J'ai une question assez précise à vous poser. Les armes utilisées, trouvées, saisies, est-ce que ce sont grandement et majoritairement des armes qui viennent du marché noir ou si vous retrouvez des armes qui ont été achetées légalement dans ça?
Principalement, c'est des armes du marché noir, évidemment. On a des ghosts, qu'on appelle des ghost guns, donc des armes qui ont été fabriquées, qui n'ont pas exactement de numéro de série. Vous avez aussi du polymère qui est fabriqué aux États-Unis. Alors, il y a une multitude, beaucoup d'armes de poing, évidemment. La majorité, c'est des armes de poing. Alors, on a plus de 400 armes de saisie depuis le début de l'année en rapport avec des événements criminels. Alors, c'est quand même assez important comme situation.
Mais est-ce que je me trompe si je dis que n'importe quelle loi qui va encadrer la propriété et l'utilisation d'armes à feu au Canada changera pas une chose à la réalité du marché noir puis de ces ghosts là, qu'on utilise justement dans ces actes de violence?
Je crois que c'est les sentences qu'il faut regarder. Alors, il faut avoir des sentences exemplaires dans l'utilisation de l'arme, dans la possession de l'arme, pour démontrer aux gens qui les utilisent, oh, attends un petit peu, là, il y a des sentences exemplaires qu'il faut avoir. Alors, la loi peut être modifiée, évidemment, parce qu'il y a des choses à faire, de moderniser la loi en rapport avec ce qui se passe, mais les sentences, je pense qu'on doit s'attendre à des sentences exemplaires compte tenu de ce qui se passe dans la banalisation des armes actuellement.
OK. Vous parliez de la présence sur le territoire, là. Les policiers, vous ne pouvez pas les inventer, là. Est-ce que je comprends? Je vous donne quelques chiffres, là, puis vous me dites si ça tient la route ou pas. Il y a 30 duos par jour, si on résume ça, là, qui sont consacrés à surveiller les quartiers chauds de Montréal puis à être présents. Ça a-tu de l'allure ou pas quand je dis ça?
Bien, j'irai un petit peu plus loin, M. Arcand. En 30 duos, il y a tout près de 200 personnes actuellement dans l'organisation qui sont mobilisées à tous les niveaux, en soutien, en enquête, en présence
mais
active.
Moi, je parle sur le terrain, là, pour que le citoyen voit la police. 30 ouais. Duos, ça a-tu de l'allure, ça?
Juste pour ça, oui, ça a de l'allure juste pour ça, mais ça, c'est à part de tous les autres duos a dans les PDQ.
Oui. Okay. Je comprends. Mais compte tenu des effectifs que vous avez, êtes-vous en train de dégarnir des postes pour envoyer des patrouilleurs dans des endroits où c'est plus chaud? Autrement dit, là, Vous jouez à promener les duos, mais il n'y a pas plus de police qu'avant sur le territoire, là.
Ben, écoutez, vous avez raison, il n'y a pas plus de policiers sur le territoire, mais il y a une affaire et chose. Comme directeur de police, ma préoccupation première avec mon équipe, c'est de s'assurer d'assurer la sécurité de la population. Alors, on a une situation qui prévaut. Alors, ça aurait été irresponsable de notre part de ne rien faire. Alors, on a pris des dispositions avec les effectifs qu'on avait pour tenter d'enrayer la situation, puis évidemment, éviter ce genre de situation-là. Alors, avec le nombre d'effectifs que nous avons, on a travaillé à organiser pour être présent, puis assurer une présence, puis rassurer, puis retrouver un certain sentiment de sécurité. Est-ce que c'est l'idéal? Non, on peut pas faire ça tout le temps. De là, les annonces qui ont été faites récemment, puis on est en train de réorganiser nos affaires pour être capable de faire face à cette situation. C'est une longue durée, c'est une longue période.
Payez-vous beaucoup de temps supplémentaire à vos patrouilleurs?
Oui, il y a beaucoup de temps supplémentaire cette année pour différentes raisons. Alors, il y a l'événement de la Coupe Stanley, évidemment.
Mais dans beaucoup. Le cas de cette guerre là, contre les fous avec leurs armes, là,
oui, il y a beaucoup de temps supplémentaire. Il y a des gens qui ont dû rentrer pendant leur période de vacances, autant des cadres que des policiers syndiqués. C'est une période exceptionnelle qu'on a vécue cet été.
Quand vous regardez ça, là, puis là, je vous demande pas du renseignement criminel à la radio, là, mais est-ce qu'on est capable d'identifier des leaders, une certaine structure, ou c'est tellement individuel, tellement en changement? C'est pas comme la mafia, là, qu'on a une structure, disons, opérationnelle. Dans le cas qui nous intéresse, c'est pas comparable.
C'est pas comparable. C'est tellement individuel. C'est des jeunes de tout âge qui se regroupent ensemble. Alors, c'est vraiment... Il n'y a pas d'identification formelle de dire ben, « c'est telle personne, c'est telle personne ». Il y a un petit groupe restreint, évidemment, qui est connu de par les différents groupes qui sont impliqués. Mais il y a tellement de gens qui tournent alentour d'eux. Alors, c'est très difficile d'identifier les acteurs.
Merci, M. Caron.
Ben, bonne journée, M. Arcand.
Au revoir. Bonne journée. Revoir. Sylvain Caron est le directeur du service de police de la Ville de Montréal. On fait avec les effectifs qu'on a. C'est-à-dire que... Je ne partirai pas le débat sur le financement de la police, là, mais c'est un enjeu pour la prochaine campagne électorale qui s'amorce à Montréal. Là. Et on va mettre combien dans la police? Puis je ne dis pas que la solution passe que par la police. Mais quand tu es à Chomédé, c'est à Laval, quand, puis il y a des élections à Laval, quand tu es à Montréal, dans Parc Extension, ou que ça se met à se tirer dessus, là, dans un quartier résidentiel, puis parfois en plein jour, peut-être qu'on devrait s'interroger sur la présence policière. Puis pas juste le dire, il faut que ça sente de la part des citoyens. Puis j'imagine les gens de Laval ce matin qui sont assez affectés par encore une fois. Puis demain, ça va être ça. Puis en fin de semaine, on va avoir d'autres cas. Puis lundi matin, me revenez, puis ça va être encore ça. Ça, c'est malheureusement, depuis le début de l'année, c'est une répétition.
L'essentiel de Paul Arcand, les grandes entrevues de la semaine.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand, les grandes entrevues de la semaine.
Notre invité ce matin, Kim Ross, qui nous présente le livre qui raconte la vie de son père, nul autre que Patrick Zabé. Kim Ross, bonjour.
Bonjour, merci Paul de m'en savoir.
Ça fait plaisir. C'est un livre intéressant parce que c'est sous forme d'échange avec votre père. Il est à l'hôpital, malade, puis bon, après ça, la convalescence. Puis vous décidez, dans le fond, d'y poser toutes les questions qu'une fille a en tête sur les moments de sa vie que tu n'as pas connus, c'est sûr. Mm-hmm. Il s'ouvre assez généreusement, en tout cas, c'est ce qui ressort du livre. Première question, quand tu l'as abordé pour faire ça, est-ce qu'il était hésitant, parce qu'il m'a l'air de quelqu'un d'assez discret sur sa vie, qui n'a pas envie d'en raconter trop, est-ce que donc il a hésité?
Non, pas nécessairement, il n'a pas hésité, parce que bon, il m'a toujours raconté quelques anecdotes sur sa vie, il a une façon bien à lui de raconter les histoires qui faisait en sorte qu'on était toujours très enclin et on trouvait ça toujours très drôle quand il nous racontait ces choses-là, mais quand je lui ai proposé en fait de faire un livre, d'aller en édition puis de se faire publier, puis que les gens, je pense qu'il était très content, au contraire. Initialement, le projet avait été entamé par un journaliste de Québec du journal Le Soleil, mais ça faisait plusieurs mois qu'ils travaillaient ensemble tous les deux et le ton n'était pas celui ce à quoi moi je pensais que le livre pourrait avoir lieu. C'est un espèce de livre beaucoup plus journalistique, moins personnel. Et ben en fin de compte, j'ai repris, si on veut, le relais et on est allé dans une conversation entre un père et sa fille dans laquelle il se confie beaucoup. Donc pour répondre à votre question, non, il n'a pas été hésitant.
Mais c'est intéressant parce que c'est en même temps, comme souvent des livres comme ça, un espèce de portrait du Québec. On le voit dans un quartier pauvre, famille nombreuse. Puis quand on dit là, serré, cordé, c'est quelque chose de rare. Puis de tranquillement être capable de se détacher de ce milieu-là, puis d'amorcer une carrière en musique. La musique, ça a été sa porte de sortie de la pauvreté, je pense.
Absolument. En fait, mon père a toujours un espèce de côté entrepreneur en lui. On le voyait lorsqu'il était jeune. Il avait des petits jobs. Il ramassait ses sous parce que la pauvreté l'a beaucoup marqué. Tu sais, juste la façon dont ils étaient habillés, des vêtements troués. Ça, je pense qu'à un certain niveau, ça l'a traumatisé. Ça lui a peut-être même motivé à devenir justement quelqu'un de qui avait envie d'être riche ou du moins d'être en moyenne dans la vie. Mais oui, la musique, parce que ça a toujours fait partie de son univers, parce que sa famille, ses frères jouaient des instruments. Mon père a appris la basse aussi. Son frère avait un groupe et ensuite, ensemble, tranquillement, pour ramasser des sous, justement, ils ont commencé à faire de la musique. Et là, de fil en aiguille, il y a des gens qui sont entrés dans leur vie et qui ont permis à mon père de s'illustrer comme
Mais là, c'est l'époque, évidemment, on le sait, là, des groupes puis des tournées, puis à travers le Québec.
Une soirée de danse, puis
Musicorama, puis toutes ces tournées-là. Mais ça veut dire qu'il était toujours sur la route, toujours absent, travaillait sans arrêt.
L'année 68, et c'est un chapitre d'ailleurs, c'était du 7 sur 7 pratiquement sur la route, effectivement. C'était des tournées. Un jour, tu es à Montréal, le lendemain, tu es à Sept-Îles. Tu sais, c'était de longues distances. Et oui, effectivement, donc peu enclin à être dans une vie personnelle, tu sais, présente, mais quand même, c'était ce qu'il aimait faire. Tu sais, avec Johnny Farago, après ça, Musicorama, tu sais, bon, il a fait une tournée qui s'appelait Noir et Blanc aussi. Donc, il était toujours à l'extérieur de la maison.
Je fais entendre quelque chose.
Oui.
Son grand succès, je pense qu'il est comme tanné de l'entendre, mais on va le faire un petit bout. Bon, vous racontez dans le livre comment il a trouvé cette chanson-là. Oui. Les gens pourront le lire. Puis là, évidemment, un succès comme ça, tout le monde veut qu'il fasse la toune.
Tout le monde.
Il est-tu tanné?
Absolument. La réponse est oui. Parce que il a fait d'autres chansons, tu sais, dans d'autres styles aussi. Il a essayé de faire autre chose, mais on le ramenait toujours à Gadou. Alors, à un moment donné, ce qui te met autant sur la map peut aussi devenir, à un moment donné, ce que qui fait en sorte que tu n'as plus envie de faire ça. Et est arrivé justement le milieu des affaires en parallèle, puis ça lui a permis, je pense, de prendre une petite pause.
C'est intéressant de voir, parce que tu soulignais le côté entrepreneur, ouais. Là, c'est-à-dire bon les magasins de jeans, mais pas juste les magasins, dans le détail de l'opération, dans l'importation des jeans, dans la marque. Il y avait le pif pour les affaires quand même. Là.
Incroyable. Incroyable. Et mon souvenir de mon père, moi, c'est pas en tant que chanteur parce que j'étais trop jeune. Moi, j'ai passé ma jeunesse, Paul, dans les centres d'achat, dans les backstores, dans l'arrière-boutique, parce que je le voyais avec sa femme en train de monter des commerces partout à travers le Québec, là, dans tous les centres d'achat. La chaîne Zabé Jeans, ça a beaucoup, beaucoup fonctionné. Il y a le flair, il y a toujours eu le flair.
On voit qu'il y a des gens importants dans sa vie.
Ouais.
Je pense à Renan Gélil. Sauf erreur, il fait pas des voix sur Agadou.
Bien sûr.
C'est ça, la voix haute, c'est assez étonnant, mais c'est
oui,
ça. Hein?
Exactement.
Donc, espèce de mentor, ou en tout cas quelqu'un qui a été important dans sa vie. Guy Cloutier aussi.
Ouais.
Et ce qu'on comprend, c'est que tu n'étais pas certaine d'en parler de Guy Cloutier.
Bien, c'est sûr. Parce qu'à l'ère où on est aujourd'hui, j'avais pas envie que l'histoire de mon père soit teintée par les actions de Guy Cloutier. Mais mon père ne serait pas Patrick Zabé si Guy Cloutier n'avait pas été là pour lui au moment où il était là. Et ça se passe, ça a été une partie de la vie de mon père, tu sais. Il lui a permis de devenir Patrick Zabé. C'est lui qui a trouvé son nom. Parce que Patrick Zabé n'est pas le vrai nom de mon père. Donc, il y a une importance, mais je me suis questionnée en tant que auteur d'un livre à l'ère où on est aujourd'hui de dire, bon, j'ai pas envie. Parce que c'est déjà arrivé dans le passé que j'organisais un événement pour mon père pour souligner ses 40 ans de carrière et Guy Cloutier s'était présenté et on ne parlait que de ça. On ne parlait pas la carrière de mon père, j'avais pas envie de ça, mais je n'avais pas le choix. Si j'en avais pas parlé, on me l'aurait reproché. Et si j'en avais parlé, ben là, j'espère qu'on me le reprochera pas. De toute façon, je ne parle que de ce qui concerne mon père. Je ne parle pas de Guy.
Mais quand Guy Cloutier a été arrêté, condamné, ça a été quoi la réaction de...
Ben écoutez, il faudrait demander à mon père. C'est sûr et certain que c'est une situation qui a ébranlé tout le Québec, mon père aussi. Je sais qu'ils se sont reparlés parce qu'ils ont eu besoin de se reparler pour différents sujets, notamment de la carrière à mon père. Mais il faudrait demander à mon père à propos de ça.
Comment il va, votre père?
Il va bien dans les circonstances. Mon père qui a le Parkinson depuis 2007. C'est une maladie qui est dégénérative. C'est une maladie qui fait en sorte que tes mouvements, en fait, que les neurones de ton cerveau ne puissent plus te faire en sorte que tu bouges comme tu voudrais bouger. Il va pas pire.
Dans
les circonstances. Ouais.
En lisant le bouquin, j'ai découvert, je connais pas votre père, mais au-delà de la carrière de chanteur puis d'homme d'affaires, quelqu'un de très discret sur sa vie. Il a perdu un enfant dans le cadre d'une première union. Il s'est marié, s'est sorti, mais il voulait pas. C'est pas quelqu'un là, qui faisait les premières pages volontairement. Il en a fait un peu, mais pas... C'est quelqu'un qui protégeait sa vie privée, protégeait ses conjointes, il y en a eu trois, là, puis protégeait ses enfants aussi.
Absolument. Ben, c'est-à-dire qu'il faisait... la une de pratiquement tous les journaux à l'époque.
Mais avec des histoires tout croche.
Mais c'est-à-dire que oui, mais c'est les journalistes aussi qui posaient peut-être pas les bonnes questions, ou peut-être que mon père esquivait bien les questions, ça c'est une autre chose. Mais on protégeait le fait, oui, sa vie privée, mais c'était ça à l'époque. On voulait pas nécessairement que les artistes parlent de leur partenaire de vie pour enlever l'idée,
là,
justement.
Ma question est la suivante, ça va être la dernière parce que le temps file. Quelqu'un qui protège sa vie privée puis qui voit sa fille s'en aller au loft, qui fait des télé-réalités puis qui raconte sa vie.
Il était pas d'accord, hein?
Il était pas d'accord.
Mon père, jusqu'au jour où je suis entrée dans le loft, était contre. Quand je suis sortie du loft, 71 jours plus tard, je l'ai vu assis, il pleurait. Et je me suis dit, mon Dieu, je pense qu'il va me renier pour le restant de ses jours. Et au contraire, mon père a appris à me connaître à travers le loft parce qu'il pouvait pas intervenir. Il pouvait juste me regarder aller. Il était fier, je pense.
Kim Rosk, merci d'être venu ce matin. Le titre du livre, Zabé par Rosk. C'est publié aux éditions La Semaine. La préface est de Michel Richard en passant.
L'essentiel de Paul Arcand. Les grandes entrevues de la semaine.
Ce matin, nous accueillons le nouveau président et chef de la direction de l'Auto-Québec, Jean-François Bergeron. Hier, c'était la présentation des résultats financiers. C'est comme le deuxième bilan après la pandémie. Monsieur Bergeron, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
Si vous aviez à me résumer ça en quelques mots, là, je comprends que ça a l'air d'aller un peu mieux après l'écrasement là, qui a suivi la pandémie.
Oui, en fait, ça va un peu mieux, mais on n'est pas tout à fait là encore. On est à 60 % de récupération par rapport à notre contribution avant la pandémie. Donc, il y a un bout de chemin de fait. Si tout va bien, on pense finir l'année autour de 80 %. Donc, on ne sera pas à 100 % cette année, mais dès l'année prochaine, là, on devrait être dans les mêmes niveaux de contribution. Donc, quand même, une assez bonne reprise.
Qu'est-ce qui tarde?
Bien, en fait, actuellement, avec la santé publique, on est à 50 % de la capacité d'accueil. Donc, évidemment, ça tarde un peu. Après ça, on est limité aussi dans les aires de jeu, moins de gens aux tables. Notre offre de restauration n'est pas tout à fait repartie aussi. Une portion l'est, mais l'autre ne l'est pas. En même temps, c'est bon pour nous parce que ça nous permet de réfléchir. T'sais, le monde change, les habitudes changent. Et cette pause-là nous permet aussi de faire un peu une certaine réflexion sur quel devrait être le modèle. Et ça, moi, ça m'emballe beaucoup.
Parlons des loteries, par exemple, les billets de loterie. Est-ce que ça fonctionne encore?
Ouais. Ah oui,
est-ce que les gens en ont acheté autant durant la pandémie?
Je dirais là, qu'il y a eu au début où les dépanneurs étaient fermés. Après ça, il y a eu les couvre-feux. Ça a venu un peu biaisé. Mais je vous dirais que le retour est bon. La présence est là, même qu'on a notre premier trimestre et le meilleur trimestre à vie. Il y a eu des gros lots avec le Lotomax qui a donné un fier coup de main, là. Mais ça fonctionne bien. Ça, il n'y a pas d'enjeu. Mais c'est un segment qui est à maturité et alors il faut être encore meilleur pour aller en chercher un peu plus. Mais ceci dit, ça fonctionne bien.
Les appareils de loterie vidéo qui étaient la grosse source de profit de l'Auto-Québec, je comprends, les bars fermés, là, ça marche moins, là, mais avez-vous l'impression que ça va repartir ça aussi?
On est actuellement, ce secteur-là, à 90 % de la reprise, mais seulement depuis la deuxième moitié du mois de juin. Pour le premier trimestre, ça n'a pas contribué beaucoup, mais je vous dirais que si l'année reste comme telle, évidemment, si la pandémie ne se détériore pas, on devrait avoir repris 90 % de ce secteur-là.
Parlons du jeu en ligne. Ouais. Puis la pandémie est un bon exemple. On a vu les campagnes publicitaires. Georges Saint-Pierre, là, c'est-tu un gros compétiteur pour vous, ça, avec Bet99?
Écoutez, d'abord, j'ai envie de dire que, à l'exception des courses de chevaux puis des bingos qui ont permis de la ragugie, là, c'est l'Auto-Québec qui a le mandat d'offrir l'offre de jeux d'hasard et d'argent au Québec depuis 50 ans. Il n'y a pas d'ambiguïté. Fait que si c'est pas l'Auto-Québec, c'est pas légal. Fait qu'en partant, c'est pas légal. Là, on comprend tous maintenant, je pense, avec la littérature de la dernière année, le modèle d'affaires entre le point net, qui est le modèle gratuit, puis le point com. Là, je pense que aujourd'hui, je vous dirais qu'il y a même un problème de réputation, je pense, pour les entreprises qui s'associent à cette organisation-là. Maintenant, d'un point de vue impact, c'est sûr que le modèle de l'Auto-Québec, on est là pour offrir le jeu, mais on est là pour le faire de façon responsable. Puis pour certains, ça peut sembler drôle, mais c'est vraiment important parce que le jeu, c'est pas un produit banal.
Mais là, vous me répondez pas. Est-ce qu'il vous fait mal?
Ouais, ben en fait, non, il nous fait pas. Il nous fait mal dans le sens que la portion web, il a pris de la place. Maintenant, il est tôt encore pour savoir quelle place qu'il a pris. Puis nous, on n'a pas pris tant notre place parce que la pandémie nous empêchait d'être aussi vocal qu'on aurait souhaité parce que ça n'aurait pas été responsable de le faire. Mais je vous dis qu'on est dans nos plans. On a une offensive qu'on est en train de faire. Alors nous, notre jeu, c'est de prendre la place. Maintenant, on n'est pas la police, c'est pas à nous à faire appliquer la loi, mais on peut avoir une offre meilleure. Le pari sportif à événement simple est maintenant légal au Canada depuis le 27 août.
Mais pourquoi vous pensez que des gens se tournent vers des plateformes, entre guillemets, illégales, là, plutôt que vers vos plateformes? Qu'est-ce qui les attire? C'est plus payant, c'est plus intéressant. Moi, j'entends ça, là. Je suis pas un joueur, là, mais il y a des gens qui me disent, ben, plus payant jouer ailleurs que chez l'Auto-Québec.
C'est sûr que les taux de retour, parce qu'ils payent pas tous les frais que l'Auto-Québec paie, évidemment, il y a un taux de retour qui est peut-être un peu meilleur, mais un peu meilleur. Si on fait un bon travail, l'Auto-Québec devrait avoir aucune raison. Même que je pense qu'il y a aussi le manque de compréhension. Les gens ne comprennent pas. Certains pensent que c'est une extension de l'Auto-Québec. Monsieur, madame, tout le monde ne comprenne pas ça. Si on s'affiche en ligne puis que ça semble être banal, ça doit être parce que c'est illégal. Fait qu'il y a une portion qui est une mauvaise compréhension puis l'autre portion, ils font un bon travail. Je dois le dire, mais maintenant, c'est à nous à faire mieux.
OK. Parlons du casino. Ce que je lis ce matin dans le Journal de Montréal est vrai, là, c'est que l'argent comptant va disparaître.
Ouais, c'est un prototype, en fait. C'est, vous comprenez, on agit, on rajoute certaines mesures pour améliorer l'étanchéité par rapport au blanchiment d'argent. C'est une des mesures. C'est un prototype qu'on aimerait mettre en place.
Mais concrètement, ça voudrait dire quoi? Tu arrives au casino?
En fait, il y aurait de l'argent comptant. On ferait un dépôt sur une carte, un peu comme sur une croisière, dans le fond. On a une carte de plastique et c'est cette carte-là, une fois qu'on a fait un dépôt en argent, qui peut être un dépôt en argent comptant, qui circulerait sur les aires de jeu. Ce qui ferait en sorte que si j'arrive à une table, ben je prends ma carte et je dépose un montant qu'on me donne des jetons parce que le jeton reste une expérience intéressante. Une table de jeu de cartes, on aime ça jouer avec les piles et tout ça, ça demeure. Mais les jetons ne sortiraient plus de la table de jeu et encore moins du site. Ça, c'est une mesure, mais c'est pas la seule mesure. Et là, c'est un prototype qu'on aimerait faire, mais la vision, c'est ça. Effectivement, c'est vraiment ça.
Mais votre prédécesseur disait qu'il n'y en avait pas de problème avec le crime organisé, puis il n'y en avait pas de problème de blanchiment d'argent. Elle est venue me dire ça.
J'ai beaucoup de respect pour Mme Reuter. J'étais pas là, j'ai pas le répondu, mais c'est sûr que tous les environnements où il y a un flot d'argent important est attrayant pour ceux qui doivent blanchir le fruit de la criminalité. Et les casinos ne font pas exception. Mais ce qu'on fait aujourd'hui versus ce qu'on faisait il y a 5 ans est drôlement plus étanche. Et 5 ans passés versus 10 ans, c'était aussi le cas. Donc, on va continuer à s'améliorer. Et je pense qu'à mesure qu'on s'améliore, le crime organisé est pas mal intelligent aussi. Là.
Fait que je risque de croiser moins de Shylock sur place.
Ben, c'est le souhait, en tout cas. Ça, c'est sûr. C'est le souhait.
Il y en a qui faisaient des prêts à l'heure. C'était incroyable.
Ouais. Ben, incroyable.
Parler du jeu responsable. Je dois vous avouer que pendant la pandémie, il y avait un certain malaise. Puis je comprends, vous avez une vocation. Il faut que les gens jouent. Là. Ouais. Mais tu dis, on est en confinement. Il y a un couvre-feu. Les gens sortent pas. Puis on les bombarde de pubs, puis d'une offre. Puis venez jouer en ligne dans le confort de votre salon. Ouais. Comment vous mariez ça avec le jeu responsable? Ouais.
Pour moi, le jeu responsable va prendre une place de plus en plus importante. L'équilibre doit être fait. On a des gens de talent à l'Auto-Québec qui, leur mission, c'est d'être attrayants. Et ils sont bons. Puis je vais leur demander d'être encore meilleurs parce qu'on va aller chercher ceux sur le marché gris ou noir. Mais on a aussi d'autres équipes qui, eux, sont sur une concentration, faisons-le de façon responsable. Et c'est ce vecteur-là que je veux mettre encore plus d'efforts. Si l'Auto-Québec veut continuer à se déployer, si l'Auto-Québec veut prendre sa place, il devra le faire de façon responsable parce que le jeu, vraiment, c'est pas un produit banal. Oui, pour 90-95% des gens,
jouez-vous?
C'est un divertissement. Non, je suis pas un joueur, mais j'apprécie. Là, je peux comprendre. Mais il faut que ça demeure un divertissement. À partir du moment où ça ne l'est plus, l'Auto-Québec a des mécanismes et on doit être encore meilleur.
Donc, vous êtes passé du cannabis au jeu.
Ouais.
Vous êtes spécialisé dans le vice.
Écoutez, vous me dites... J'aime mieux dire que c'est la mission entre la vocation commerciale et sociale que j'aime bien.
Monsieur Bergeron, merci d'être venu.
Merci, merci à vous.
Jean-François Bergeron est le président et chef de la direction de l'Auto-Québec.
C'est 23.
pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.